Vous êtes sur Jazz Night, une émission de Jacques Ponzio.
Et voilà, en effet, avec le tout nouveau générique depuis un mois qu'on a essayé et qu'on a adopté et qu'on a gardé. Merci Tony pour ce magnifique générique. Et ce soir, Jazz Night a le plaisir de recevoir non pas un inconnu, mais quelqu'un que je connais très bien depuis longtemps, qui est le saxophoniste Alain Venditti. Bonsoir Alain.
Bonsoir Jacques.
Alors, donc, vous êtes un polygroupeur. Parfois on dit un polyinstrumentiste. Non, vous êtes un saxophoniste, mais vous jouez dans plusieurs groupes, dont Africa Express, on l'a souvent dit, et on n'y reviendra pas ce soir. Mais aujourd'hui, c'est parce que votre actualité est au sein d'un autre groupe que vous avez fondé avec des amis dont on va parler tout à l'heure. Eh bien, vous avez une actualité à la fois du disque et du concert. Alors, je vois ce disque que vous venez de me remettre là, et qui est donc le disque du Yades Quartet. Alors, le fondateur, c'est vous, c'est qui, c'est le hasard, ou c'est la rencontre, ou c'est...
on est deux fondateurs, on pourrait dire, c'est Renaud Matchoulian, le guitariste, et moi, en fait, on s'est rencontrés, c'est une rencontre dans le cadre de la Cité de la Musique. À l'époque, on était élèves de la classe de jazz donc à la Cité. Mmh. Et très rapidement, on a pris grand plaisir à jouer ensemble, on a décidé de fonder un groupe, et après quelques petites variations de formules, on a finalement constitué un quartet il y a à peu près 5 ou 6 ans, avec Nicolas Aurel, et qui est le batteur d'Africa Express aussi.
Et
Laurent Cabanet.
Et autre lieu.
Et autre groupe. Et Laurent Cabanet.
Et Laurent Cabanet, qui était contrebassiste.
Qui est contrebassiste.
Voilà. Et donc, vous venez d'enregistrer un disque après quand même pas mal de mois, voire même d'années de fonctionnement, beaucoup de concerts, à la fois dans la région et sur la Côte d'Azur, je me suis laissé dire. Mmh. Et donc, vous êtes produit, je crois, plusieurs fois, une fois ou deux à la Cava Jazz, au Roll Studio. Mmh. Et puis justement, vous allez revenir au Roll Studio et c'est samedi prochain.
Samedi prochain, oui.
Donc
18h30.
C'est cette actualité. 18h30, non.
Ouais, c'est l'entrée à 18h30, oui. Le concert un peu plus tard.
C'est pour permettre aux gens de prendre leur billet.
Et l'apéro.
Et le concert, c'est 19h30. Mmh. Et donc là, vous serez avec ce quartet dans cette cave qui est plutôt un lieu agréable, au point de vue de son accueil, au point de vue de son acoustique, qui n'est pas très grand. Il faut absolument réserver. Il faut être à l'heure, parce que après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, on va parler un petit peu de ce CD que vous avez enregistré. Et donc, on va dire tout de suite le nom du disque, c'est le Yades Quartet Newcomer, le nouveau venu.
Oui, tout à fait.
On verra de quoi il s'agit ou de qui il s'agit, avec un premier titre qui s'appelle «
Un autre jour ».
Thank you. un autre jour, mais c'est ce soir, avec Alain Venditti du Yades Quartet. Composition de...
De moi-même.
D'accord. Mmh. Alors, vous confirmiez hors antenne qu'il n'y a pas de piano sur cet enregistrement. Alors, c'est très curieux parce que ça, cette guitare de Renaud Matchoulian sonne un peu comme un piano. Tout d'un coup, je me suis dit, c'est pas possible, ils n'ont pas embauché un pianiste.
Non, mais vous avez raison parce que, en fait, l'idée... de la mise en place, en fait, notamment de l'introduction de ce morceau, a été faite avec en tête, un peu comme beaucoup en tout cas, en ce qui me concerne, la musique de John Coltrane et plus particulièrement le quartet.
Avec McCoy. Bien sûr.
Donc l'idée c'était de faire un balancier, de reproduire d'une certaine façon dans un esprit avec un son un peu autre, puisque il s'agit de guitare ici, non pas de piano, mais de jouer un peu cette balancement hypnotique qui caractérise McCoy.
Exactement. Et donc, on avait ça, cette idée du piano, à la fois avec la forme, donc le balancement hypnotique, et puis aussi un peu avec le son quand même. Le son se rapprochait tout d'un coup. C'était pas le son d'autres guitares ou qu'on peut entendre autrement. Enfin, il n'y a pas... Je sais pas. Tout d'un coup, là, c'était assez troublant pour moi.
Oui, c'est possible. Je pense que c'est probablement lié à la forme, en fait, qui fait vraiment penser à McCoy. Sinon, au niveau du son, effectivement, Renaud a beaucoup travaillé sur une forme de son un peu déformé, tout en gardant l'esprit de la guitare, quoi, mais vraiment avoir une sorte de distorsion légère qui permet justement d'avoir ce rendu sonore.
Bon, on va entendre d'autres morceaux de cet album qu'on pourra trouver dans les bacs ou pas dans... Ah oui, je vois très bien ce que vous allez me dire, car vous êtes distribué par...
On est distribué par Aya Music.
Aya Music, bien
donc,
sûr.
Donc le disque est évidemment disponible sur le site d'Aya Music.
Soit en téléchargement, soit en
commande. Oui. Donc on n'est malheureusement pas distribué, mais évidemment le disque peut être acheté lors des concerts, donc notamment au Roll samedi prochain pour ceux qui seront présents.
Ne les oubliez pas, ne faites pas comme d'autres qui ont oublié les concerts.
Non, on essaiera de ne pas oublier.
Je pense à moi.
Ça nous est déjà arrivé aussi.
Oh là là, et bien sûr. C'est-à-dire que quand on fait un concert, on a beaucoup de choses à penser. Exactement. Et ça c'est l'intendance et c'est la dernière chose à laquelle on pense en général. Donc, pour poursuivre l'émission, vous nous avez apporté un disque d'un groupe qui s'appelle ETC, etc. Et là, ils sont trois plus one. Donc, c'est Jerry Bergonzi qui est le plus one.
Qui est le leader, en fait, de la formule.
Alors, oui, c'est assez curieux, d'ailleurs, parce que le groupe ETC, ce serait plutôt un groupe piano-basse-batterie, auquel s'ajoute Jerry Bergonzi, qui prend ensuite la place de leader. Alors,
disons que j'ai un peu le sentiment, je ne connais pas l'historique de ce disque-là, mais j'ai le sentiment que en fait, c'est plutôt la formule trio avec Bergonzi qui serait la formule leader, avec le pianiste invité.
Mais
je ne suis pas complètement certain.
Oui, mais
c'est vrai que l'essentiel des compositions du CD, c'est des compositions de Bergonzi. Donc c'est pour ça que je m'avais déduit que c'était lui qui était... Mais enfin, c'est vrai que quand on regarde la présentation, c'est peut-être pas forcément...
Ouais. Dites-nous un peu les noms des
donc,
autres.
Donc il y a Steve Lapina à la contrebasse, Fred Hirsch au piano, Jeff Hirschfield à la batterie.
Alors Fred Hirsch, comme pianiste, a commis un très bel album d'hommage à Monk, extrêmement décoiffant, très 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 intéressant, qu'on a longuement chroniqué avec Guy Reynard il y a déjà quelques années, parce que ça changeait de climat, il faut le dire.
C'est un très bon pianiste avec beaucoup beaucoup d'idées, de belles idées harmoniques et mélodiques. Mais avant tout, c'est vrai que en apportant ce disque, moi j'avais plutôt dans l'esprit de... Bon, pas faire découvrir, parce que Jerry Bergonzi est un saxophoniste qui est très connu.
On peut le faire découvrir.
Mais je pense qu'il est sous-estimé. C'est vraiment un très, très grand saxophoniste qui, certes, a eu beaucoup, beaucoup d'influence de grands musiciens du passé, mais qui a réussi à avoir une personnalité tant du point de vue des compositions que de l'improvisation, que du son, ce qui n'est pas forcément très courant dans les saxophonistes de nos jours. Donc je pense qu'en fait, c'est vraiment un saxophoniste à redécouvrir et à apprécier.
C'est ce que nous allons faire avec cette composition que vous avez choisie et qui s'intitule
Splurge.
Splurge par le groupe Etc. Plus One, c'est Jerry Bergonzi, Fred Hersch et d'autres. Qu'est-ce qui vous plaît, Alain, dans cette musique-là? Question un peu piège, mais il faut bien quand même.
C'est l'énergie, d'une part, le son du groupe et du saxophoniste en particulier. C'est vrai que moi j'aime beaucoup cet esprit de son qui est directement dérivé, influencé par Coltrane en fait. Et puis, l'énergie de la musique, la forme de la composition, l'ouverture harmonique.
Et en même temps, on a l'impression d'une grande précision du phrasé, les notes, c'est vraiment pas n'importe quoi, ça vient, il y a un discours tout à fait logique qui prend sa source certainement dans l'inspiration de Coltrane, bien sûr, mais j'aime bien cette, à la fois l'énergie et la précision de cette musique.
Oui, c'est une des caractéristiques notamment de Bergonzi, mais aussi de Fred Hersch, qui est vraiment un pianiste très très précis, avec un phrasé très rigoureux et très mélodique. Mais Bergonzi, de manière générale, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup depuis quelques temps, quoi. Et c'est vrai qu'il a un discours. Chaque improvisation est vraiment une histoire racontée avec un début, une fin, avec une très grande logique et rigueur. Donc c'est vraiment agréable de ce point de vue.
Alors cette notion de l'histoire qui se raconte en musique, c'est quelque chose qu'on essaye d'enseigner aux étudiants, aux élèves des classes de jazz. C'est pas toujours évident au départ, c'est pas toujours évident non plus pour l'auditeur moyen que je peux être. Mais lorsqu'on se penche sur cette affaire-là, c'est vraiment intéressant, ça apporte un plus dans l'appréciation qu'on peut porter sur la musique. Et ça montre bien quand même que la musique, sans véhiculer un sens particulier, est néanmoins un discours et un discours articulé. Donc c'est une chose importante à souligner. Je suis très content que vous l'ayez souligné maintenant. Un autre disque, et alors là, bien sûr, on ne peut pas y échapper, c'est impossible, c'est le grand maître, le grand ancien, le prophète, le génie, ce qu'on voudra, c'est Coltrane.
Bah, disons pour moi, c'est vrai que je me suis mis à la musique et au saxophoniste en particulier après avoir écouté Coltrane, donc c'est vrai, ça a vraiment été une révélation dans ma vie, au sens large et musical le plus particulier. Donc c'est vraiment la référence absolue pour moi, et notamment la dernière période qui a souvent été décriée. Je trouve qu'elle fait preuve d'une créativité et d'une originalité démesurée.
Mais c'est bien pour ça qu'elle a été décriée. C'est que les auditeurs ne parvenaient tout simplement plus à le suivre. Il était trop loin.
Peut-être, mais en même temps, je crois que parfois il y a des blocages qui sont faits, notamment par la présentation qui peuvent être faites de certaines œuvres de certains musiciens.
Oui, c'est possible.
Et pour Coltrane, je pense qu'il y a des a priori qu'il faut savoir dépasser. Et je pense que si on se laisse porter uniquement par la musique sans a priori, on peut être très surpris de découvrir de très très belles choses dans cette musique-là, qui est souvent vue comme trop violente, trop agressive, alors qu'il fait preuve d'un lyrisme hors du commun dans cette musique-là.
Oui, et donc ça me fait penser à une anecdote, je crois que c'est Jean-Louis Chotan qui racontait ça, je suis pas très sûr, mais il me semble bien quand même que dans le disque de Coltrane à l'Olympia, on entend, ça avait fait une bronca épouvantable, hein, ça, et il y a quelqu'un qui siffle sur pratiquement sans interruption, et Jean-Louis Chotan dit « le crétin qui sifflait, c'était moi ».
En fait, c'est l'enregistrement de Coltrane à l'Olympia avec Miles Davis en 1960 pendant la tournée européenne du quintet de Miles. Et effectivement, Coltrane à ce moment-là était vraiment dans une phase de transition importante. Mmh. Il était sur le point de créer son propre groupe, le Quartet, qui est devenu historique par la suite. Et là, il expérimente vraiment en termes harmoniques et en termes de son, puisqu'il travaille énormément sur les harmoniques du saxophone. Et donc dans ces improvisations qui sont très très longues, qui dépassent très souvent celles de Miles, c'est vraiment de l'expérimentation, et le public ne suit pas vraiment à ce niveau-là. Et notamment à Paris, donc on entend effectivement sur les enregistrements des sifflements du public.
Voilà, et je trouve que c'est faire preuve d'une grande modestie finalement et honnêteté en même temps, d'un beau retour sur soi, parce que Jean-Louis Chotan a fait une magnifique carrière qui n'est pas terminée, heureusement, pour avouer publiquement, donc c'est pas un secret que je révélerai, qu'à l'âge de peut-être 16 ans ou 17 ans ou 18 ans, eh bien, il était dans une incompréhension totale de ce qui pouvait se passer. Mmh. Voilà, mais ça ne l'a pas empêché de devenir un grand saxophoniste.
Alors, bien sûr, bien sûr.
et donc, pour revenir à Coltrane, eh bien, vous avez choisi d'un disque qui s'appelle « Je ne vois pas d'ici ».
Alors, c'est un des derniers enregistrements
de Coltrane,
Stella Region. Donc, nous allons écouter l'alternate take du disque de Stella Region, qui en fait initialement été titré « Vénus » sur l'album Interstellar Space. Et là, manifestement, ceux qui ont fait le CD, notamment sa veuve à l'époque, n'avaient pas vraiment fait le lien entre les deux versions. Il s'agit vraiment du même morceau, donc en fait c'est Vénus, une version quartet de ce titre-là qui a été joué en duo sur Interstellar Space. Thank you.
Stella Regents Alternate Take avec, bien sûr, John Coltrane, Alice Coltrane, Jimmy Garrison et Rashid Ali. Un disque Stella Regents absolument indispensable. Revenons au disque de Yades Quartet. Évidemment, il est totalement exclu de faire la moindre comparaison, mais on peut quand même reconnaître des influences, et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Donc le Yades Quartet, là vous avez choisi, Alain, une composition du batteur du groupe.
Oui, de Nicolas Oreille.
Nicolas Oreille.
Qui s'intitule Aksak.
Aksak, ça a un sens
Alors oui, je vous avouerai que j'ai un peu oublié, je crois que c'est du turc. Donc l'idée de ce morceau en fait a été construite sur la base d'une clave orientale en fait par Nicolas, avec un thème assez parlant je trouve, dans l'esprit oriental toujours quoi. Et je pense que c'est vraiment un morceau qui est très très agréable à jouer parce qu'il développe un très très joli climat, assez hypnotique, mais très joli climat.
Très bien, Aksak.
Thank you.
Aksak, une composition de Nicolas Oreille, avec un super climat, de beaux rythmes, et ce que je trouve épatant dans ce morceau, il y a plein de choses, mais c'est l'adéquation de la mélodie et du rythme à la fois soutenu et institué par la batterie, mais aussi avec la basse, avec la guitare. Enfin, c'est vraiment un son de groupe, et je trouve que ce morceau, en effet, est hypnotique et agréable, comme vous le disiez. Il y a rien à retirer de ça. Je vais vous proposer autre chose que ce que vous avez amené aujourd'hui, puisque Géraldine Laurent, qui est la saxophoniste qui monte aujourd'hui en France, est passée le week-end dernier, je crois, chez nos amis de Charlie Free, en compagnie de Aldo Romano, et donc enregistrée l'année dernière. J'ai voulu vous faire partager un morceau qu'elle a donc joué avec la formation d'Aldo Romano. Et il y a Mauro Negri à la clarinette basse, Aldo Romano bien sûr est à la batterie, Henri Texier est à la contrebasse et Géraldine Laurent joue du saxo alto, je crois bien.
Oui.
Et la composition, pardon, c'est Le Roi René. Voilà, Géraldine Laurent avec Aldo Romano. Et donc, c'était enregistré l'année dernière par nos confrères de Radio France. C'était Le Roi René. Et puis, bien sûr, la vie nocturne de Marseille est assez riche, puisque des concerts de jazz, il y en a presque tous les jours. Alors, au point de bascule, c'est demain, c'est mardi 10, il y a un duo de musique créative. Il y a deux Canadiens, un Canadien et une Canadienne, qui sont saxophonistes, vocalistes. Ça va être assez décoiffant au point de bascule. Ça, c'est mardi. Le jeudi 12, au Cri du Port, il y a un énorme saxophoniste aussi illustre, je crois que vous l'aimez aussi beaucoup, Alain, c'est Rick Margitza au Cri du Port, c'est jeudi 12, avec Joel Harrison à la guitare, Evan Gregor à la basse et Jordal Perlson à la batterie. C'est jeudi. Vendredi, il y a notre ami Robert Pettinelli, le saxophoniste, en compagnie du guitariste qui monte Wim Welker, et c'est au Dauphin Corniche vendredi 13. Il faut réserver si on veut dîner au 70-70-10. Et donc on arrive au vendredi, et le samedi, bah bien sûr, c'est Yades que l'on va donc pouvoir entendre et voir en direct live. C'est au Roll Studio, et l'ouverture des portes, c'est à 19h, et le concert 19h30-19h45. Le Roll Studio, rappelons-le, c'est rue des Muettes, et c'est juste en dessous de la place des Moulins, c'est au Panier, et je crois que ça vaudra le déplacement. Et vous pourrez acquérir le CD qui vient juste de sortir. Un dernier pour la route, Alain, si vous voulez.
Avec plaisir.
Alors, toujours donc de votre CD, vous avez choisi quel titre ?
Alors, c'est une composition du guitariste Renaud Machoulian qui s'intitule Mon Kiff. Donc, l'esprit, vous allez voir, est assez différent. C'est un morceau beaucoup plus binaire. Donc, en fait, c'est vrai que dans ce groupe-là, puisqu'on est tous les quatre à porter chacun des compositions.
C'est un groupe coopératif.
C'est un groupe totalement coopératif. Donc, à ce sens-là, il n'y a pas de leader. C'est vraiment un collectif, petit collectif, mais un collectif quand même. Et donc chacun a ses références, ses influences. Donc les compositions sont du coup assez variées. Et là, donc il s'agit d'un funk en fait, qui s'intitule Mon Kiff.
Mon Kiff, est-ce qu'il y a du monk là-dedans ? Non, ou c'est son kiff ?
Non, c'est son kiff.
sur ce super thème de Renaud Matchoulian, mon kiff, qu'on va se quitter. Bonsoir Alain.
Bonsoir Jacques.
Merci d'être, d'être venu.
Pour l'invitation.
Avec plaisir. Et merci à Tony qui a assuré la technique comme à l'accoutumée, qui est aussi l'auteur du générique. Et puis ne quittez pas l'écoute, car bien sûr, il y aura ensuite Cacophonie, l'émission de Mackie. Bonsoir.
Bonsoir.